jusqu'à 21h. Nouveau rendez-vous, vous avez l'habitude, tout à l'heure 20h30, l'invité politique d'Europe 1 Soir, Guillaume Carayon, candidat aux élections européennes, porte-parole et vice-président LR et président des Jeunes Républicains. Ça sera après votre journal. Bonsoir Maël Hassani.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 20h sur Europe 1, merci de nous suivre. Et à la une de votre journal, interdire les écrans aux enfants de moins de 3 ans.
C'est l'une des recommandations des experts mandatés par le président de la République pour lutter contre les effets néfastes de l'hyperconnexion des plus petits. Un rapport a été rendu aujourd'hui à Emmanuel Macron. Vous entendrez l'une des professionnelles de santé qui a réalisé ce travail. Mission accomplie pour Nadine Morano et Brice Hortefeux. Ces deux sarkozystes historiques sont parvenus à obtenir de bonnes places sur la liste LR en vue des prochaines élections européennes. Et ce fut un travail de longue haleine. Dans ce journal également, 3 morts dans l'incendie d'un immeuble au centre de Paris la nuit dernière. Et puis, où mange-t-on quand on est athlète et qu'on participe aux JO de Paris ? Eh bien, à la cantine, mais pas n'importe laquelle.
La tendance météo, Marlène Durem.
Alors, un jour férié, mais pas pour les parapluies. Averse ou pluie intense, il ne sera pas trop dans votre sac. Demain, à surveiller quand même cette séquence orageuse prévue en fin de journée et dans la nuit de mercredi à jeudi entre la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne.
Météo complète en fin de journal. Si vous êtes parent, vous vous êtes forcément déjà posé cette question.
Comment contrôler au mieux l'usage des écrans par les enfants ? Un rapport sur cette question avait été demandé en janvier dernier par Emmanuel Macron. Il a été rendu aujourd'hui. Ce document d'une centaine de pages préconise d'interdire les téléphones portables aux moins de 11 ans, de réserver l'accès à Internet sur mobile aux plus de 13 ans et d'attendre l'âge de 15 ans pour les réseaux sociaux. Servane Mouton est neurologue et coprésidente du comité d'experts. Elle propose une mesure encore plus radical pour les moins de 3 ans, bannir tout simplement les écrans.
Dans nos préconisations, ce qu'on a essayé d'englober, c'était toutes les questions en lien avec l'impact des écrans, que ce soit sur le neurodéveloppement, mais aussi sur la santé de façon générale. Le sommeil, la vision, la sédentarité avec les maladies métaboliques, cardiovasculaires, la santé mentale. Voilà. Donc vraiment d'englober tout ce qui nous fait poser ces balises. Sur le plan scientifique, la littérature est plutôt consensuelle sur le fait de dire que les écrans ne sont pas bons pour l'enfant de moins de 3 ans. Entre 3 et 6 ans, il y a des alertes sur le plan neurodéveloppemental qui incitent à dire qu'il faut vraiment que ce soit des temps très restreints et avec des contenus éducatifs et accompagnés par des parents et en petite quantité parce qu'il faut intégrer aussi le problème de la vision qui, avec les problématiques de la myopie et de l'exposition à la lumière bleue qui peut avoir des conséquences sur la rétine. Donc c'est pour ça qu'on a dit entre 3 et 6 ans, très limité, occasionnel, hautement éducatif et accompagné par les parents.
Servane Mouton, neurologue et coprésidente du comité d'experts missionné par le président de la République au micro européen de Louis Salé. Aucun manquement fautif de la part du personnel du collège dans l'affaire Samara. C'est la conclusion de l'enquête administrative demandée par la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, début avril, après la violente agression de cette adolescente de 13 ans près de son collège à Montpellier. Rien ne permet non plus d'établir que la collégienne était victime de harcèlement scolaire, peut-on lire dans cette synthèse publiée aujourd'hui. L'avocat de la mère de Samara s'indigne et dénonce une forme de corporatisme des enseignants. Châteauroux va rendre hommage à l'un de ses enfants samedi prochain. Une marche blanche sera organisée en mémoire de Mathis, 16 ans, poignardé à mort en pleine rue le week-end dernier. Le cortège va passer devant l'école de l'adolescent, son domicile, mais aussi le restaurant de son père et celui où il travaillait. Le principal suspect du meurtre est un jeune Afghan de 15 ans. Il est mis en examen et placé en détention provisoire. Ce drame relance une nouvelle fois le débat autour de l'ultra-violence chez les plus jeunes. Et par la force des choses, ça devient un thème de campagne en vue des élections européennes. Un scrutin prévu le 9 juin prochain, ça approche. Et la liste LR menée par François-Xavier Bellamy ne dépasse toujours pas les 8% d'intention de vote. La composition complète de la liste vient d'être dévoilée. Le patron du parti, Éric Ciotti, et le candidat ont voulu trouver l'équilibre entre expérience et renouvellement. Alexandre Chauveau.
Oui, pour le renouvellement, deux surprises en quatrième et cinquième position. L'ancienne filloniste et députée d'Ille-et-Vilaine, Isabelle Le Callennec, d'une part. Le docteur niçois est proche d'Éric Ciotti, Laurent Castillo, d'autre part. Suivent ensuite deux sortants, Nadine Morano et Brice Hortefeux, anciens ministres, sarkozystes historiques. Ils sont tous deux en place éligible, grâce notamment à l'appui de Laurent Wauquiez. Leur présence fait aussi grincer des dents plusieurs élus qui reprochent au parti de ne pas avoir fait émerger de nouveaux visages. Le président des Jeunes Républicains, Guilhem Carayon prend malgré tout à 24 ans la 9e position, tandis que les eurodéputées sortantes Nathalie Collin-Osterlé et Anne Sander occuperont la 8e et la 10e place. Alors cette liste ne satisfait pas tout le monde. Bruno Retailleau et Gérard Larcher notamment se sont abstenus au moment du vote ce matin. Au sein du parti, beaucoup font aussi le constat d'une liste à la notoriété limitée. Personne pour autant n'ose la critiquer publiquement, car chacun a désormais intérêt à voir LR le plus haut possible le 9 juin prochain, afin d'aborder de la meilleure des manières la deuxième partie du quinquennat.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Autre parti en campagne, la France Insoumise, qui espère mobiliser son électorat autour de la cause palestinienne.
Mais les propos de la numéro 7 sur la liste, Rima Hassan, au sujet du Hamas, lui ont valu une convocation par la police pour apologie du terrorisme aujourd'hui. La militante est ressortie tout sourire des locaux de la PJ en expliquant qu'elle assumait ses déclarations. La chef des députés LFI, Mathilde Panot, a également été entendue par les enquêteurs pour le même motif. La cause palestinienne brandie également par des étudiants dans toute la France pour bloquer des universités. Après la Sorbonne hier et Sciences Po Paris la semaine dernière, des campus ont été occupés à Tolbiac dans la capitale, mais aussi à Sciences Po Toulouse et à Menton. D'autres mobilisations pro-Gaza ont été organisées à Lyon, Grenoble ou encore Dijon. Gaza, où une trêve des combats pourrait être actée dans les prochaines heures. Le Hamas a en tout cas reçu une proposition hier pour un arrêt des combats de 40 jours assorti de la libération de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens. L'État hébreu attendra une réponse à cette offre jusqu'à demain soir. Mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'assure d'ores et déjà, ses troupes entreront dans la ville de Rafah, qu'une trêve soit conclue ou non.
Dans l'actualité également, Maël, deux incendies dévastateurs dans des immeubles parisiens la nuit dernière.
Quatre personnes sont décédées au total malgré l'intervention rapide des pompiers. Un premier incendie s'est déclaré vers 2h30 dans le 15e arrondissement. Une personne d'une soixantaine d'années a perdu la vie. Et deux heures plus tard, un autre feu s'est propagé dans un immeuble du centre de Paris. Bilan, trois morts. Alban Le Prince.
Il est environ 4h30 cette nuit lorsque les pompiers sont appelés. À 300 mètres à peine de l'Opéra Garnier, à Paris, un incendie est en cours, boulevard des Italiens. C'est un immeuble de 7 étages, principalement occupé par des bureaux, qui est touché. Mais deux ou trois appartements ainsi que les chambres de bonne sont loués, situés au dernier étage, sous les combles. Impossible pour les habitants de descendre, la cage d'escalier est en flammes. Une dizaine d'entre eux parvient tout de même à s'échapper par le toit secouru par les pompiers. Mais trois autres sont piégés par des barreaux anti-intrusion fixés à leurs fenêtres. Leurs corps seront retrouvés plus tard dans la matinée. Dans cet incendie également, quatre personnes ont été blessées, dont deux pompiers. Et si la piste d'une fuite de gaz est évoquée, les investigations se poursuivent pour tenter de déterminer l'origine du feu. Une enquête est ouverte, confiée au commissariat de Paris-Centre.
Alban Le Prince. La piste terroriste est écartée après l'attaque à l'épée dans les rues de Londres ce matin. Un garçon de 14 ans a été tué et quatre personnes sont blessées, dont deux policiers. Le suspect est un homme de 36 ans. Il est en détention provisoire. Ses motivations restent inconnues pour l'instant. Les pensées et prières du roi d'Angleterre vont à tous ceux qui ont été affectés par cette attaque, indique Buckingham Palace. Charles III, qui a par ailleurs repris ses activités publiques aujourd'hui. Le monarque s'est rendu dans un centre spécialisé contre le cancer à Londres. Premier engagement honoré depuis qu'il a révélé qu'il était lui-même atteint d'un cancer début février.
Oui, d'ailleurs, on va en parler de cette première sortie du roi Charles III avec l'ami Stéphane Bern tout à l'heure, juste avant 9h. Et puis, le plus grand restaurant du monde va ouvrir à Saint-Denis l'été prochain.
Oui, et ce sera le restaurant du village olympique à l'occasion des JO de Paris. Cette cantine géante sera gérée par l'entreprise Sodexo. 15 000 bouches à nourrir durant la compétition et des bouches de grands sportifs, qui plus est. Martin Lange, vous avez pu visiter les lieux pour Europe 1 et l'endroit choisi par les organisateurs est particulièrement prestigieux.
Oui, dans la grande nef de la Cité du cinéma à Saint-Denis, une cantine XXL ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Franck Chanvas, directeur général de Sodexo Live.
Nous allons ouvrir le plus grand restaurant du monde qui servira 40 000 prestations par jour, du petit déjeuner jusqu'au dîner, pour 15 000 athlètes issus de 206 délégations.
Au menu, plus de 500 recettes imaginées par le chef Charles Guillois. Des classiques de la gastronomie française, blanquettes de veau, brandades de morue, mais aussi des spécialités du monde entier, Charles Guillois.
L'idée, c'est de respecter aussi toutes les gastronomies du monde entier. Et c'est important pour nous qu'un athlète se sente prendre comme à la maison pour qu'il performe au plus vite.
Dans sa tâche, il sera aidé par plusieurs grands chefs, notamment Alexandre Mazia, 3 étoiles au guide Michelin et spécialiste du poisson.
C'est un tapioca au bouillon de légumes qui va apporter ce côté suave mais aussi cette gourmandise naturelle. Et ce merlu brûlé au saté, on a voulu mettre une empreinte du restaurant pour les athlètes. C'est aussi une fierté de représenter la France, de représenter son territoire, un savoir-faire, un patrimoine.
Alexandre Mazia qui sera également présent au village olympique pour servir son plat signature. Attention, édition limitée, 600 assiettes seulement.
Martin Lange dans le restaurant des athlètes au village olympique.
Le merlu brûlé au saté.
Ça donne envie.
Il est 20h09 là, ça donne envie quoi.
Je vous le confirme, Pierre.
Voilà.
Martin Lange donc dans ce restaurant des athlètes au village olympique pour Europe 1 et puis un mot de football.
On lui
tout
laisse
même.
Pas finir ses phrases, mais la Sani, c'est ça sans problème.
C'est terrible.
Voilà. Et donc en foot.
En football, merci Pierre. Première demi-finale aller de la Ligue des Champions ce soir entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Coup d'envoi à 21h.
Merci mon cher Maël. La météo. Marlène Duré, une journée qui s'annonce pluvieuse voire orageuse demain.
Des remontées pluvieuses par le sud, plus les retours d'est, plus le front qui circule en ce moment en Bretagne et qui va glisser cette nuit le long de la façade atlantique. Tout ça va arroser une bonne partie du pays, allez les trois quarts on va dire. Et puis cet air froid qui est ramené par le front à l'ouest en ce moment, à l'ouest du pays, qui va être confronté à de l'air plus doux à l'avant de ce front. On sait ce que ça fait, Pierre. Un petit conflit de masse d'air. Matérialisé donc par des orages potentiellement violents. Et ils prendront naissance demain après-midi en Bourgogne, dans l'ouest et le sud de la Franche-Comté, avant de se propager en soirée ou dans la nuit de mercredi à jeudi vers l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, les Hauts-de-France, voire la Haute-Normandie. Il faut s'attendre à de bonnes intensités de pluie et des chutes de grêle, donc un mercredi assez terne. Pour autant, près de la côte atlantique, on peut quand même espérer une petite amélioration dans l'après-midi. Et puis deux régions feront figure d'exception demain, la Lorraine et l'Alsace, qui vont profiter de belles éclaircies et de la douceur qui va résister par là-bas.
Et puis un joli contraste au niveau des températures.
Ah oui, la douceur... avec 26 à Strasbourg, 25 à Nancy, 22 à Reims, mais 10 degrés à Tarbes demain après-midi, 13 à Bordeaux, 14 à Toulouse, voilà, puis ailleurs on notera 15 au Mans, 17 à Nice, à Montélimar, à Bourges, à Rouen aussi, 20 degrés à Albertville, 21 à Paris, donc voilà, ça baisse surtout dans le sud-ouest, on l'aura noté, et puis il fera bien doux dans le nord-est.
Merci ma chère Marlène Duret, oui. 20h11, dans un instant, on revient sur l'agression de Matisse à Châteauroux tout à l'heure, dans le journal de 19h, Maïalène Trémolet nous donnait plus d'informations sur le portrait de l'assaillant. Et puis au-delà de ça, cette question, est-ce que le fait que c'est un migrant afghan, la question migratoire est-elle vraiment au centre même de cette affaire? On se pose la question avec William Tay et Nathan Devers qui nous rejoignent dans un petit instant sur Europe 1. Tout de suite.
Europe 1. Rejoignez-nous sur l'antenne d'Europe 1. C'est la famille, on est tous ensemble.
Je vous écoute tous les jours, c'est de la bonne humeur. Je ris en voiture en vous écoutant quand je rentre du travail et j'ai vraiment passé un bon moment.
On vous embrasse, Valérie.
Bravo.
Ça part bien, les amis.
Qu'est-ce que c'est la chanson du matinalier?
Vous connaissez pas la chanson du matinalier?
Non. L'actu, c'est ma meilleure copine. Elle me fait rire quand elle me déprime. Vous connaissez pas celle-là?
Non, je connaissais pas. Non.
C'est extrêmement important que vous puissiez nous dire ce que vous avez sur le cœur.
Je vous écoute toujours avec beaucoup d'attention et je vous remercie de votre aide.
Europe 1.
Les Français ont envie d'avoir des images positives.
Avec vous.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Europe 1. Le journal permanent.
Le journal permanent dans Europe 1 Soir à 20h13. Après la Sorbonne, hier Sciences Po, la semaine dernière, d'autres universités françaises bloquées aujourd'hui par des manifestants pro-Gaza à Tolbiac, à Paris, mais aussi à Rennes, Saint-Etienne, Lyon, Grenoble ou encore Dijon. Rima Hassan assume ses propos polémiques au sujet du Hamas. La numéro 7 sur la liste LFI aux prochaines élections européennes et également Mathilde Panot. Toutes deux étaient convoquées pour apologie du terrorisme dans les locaux de l'APJ, la police judiciaire à Paris. Et puis l'Université de Columbia à New York menace de renvoyer les étudiants qui occupent un bâtiment.
Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Avec dans un instant de nouveaux chroniqueurs, William Tay du Millénaire et Nathan Devers qui est écrivain et philosophe. On va avec eux passer en revue l'actualité et je vous le disais avec l'agression de Matisse à Châteauroux dont une marche blanche sera en son hommage décidée pour samedi prochain. Eh bien, on avait plus d'informations sur son agresseur qui s'était mis en scène dans une vidéo avec un couteau. Agresseur qui lui-même avait 15 ans, qui est écroué à présent. On va parler de cette question, la question de la migration dans un instant. Est-ce que cette question est vraiment au niveau de l'affaire? D'abord, Sébastien Chenu, qui était chez Sonia Mabrouk, a pris la parole justement sur ce sujet ce matin sur Europe 1.
Ceux qui nous gouvernent sont dans le déni. La situation est hors de contrôle. Les mesures qui sont proposées sont extrêmement faibles et la situation ne cesse de d'être de pire en pire. Si vous voulez, chaque jour, on a le sentiment qu'un jeune dans notre pays se fait tuer, assassiner. Cette situation hors de contrôle mérite une réponse excessivement ferme. Aujourd'hui, je ne la trouve pas.
Vous, de votre côté, le RN dénonce la politique migratoire du gouvernement. Mais est-ce qu'à dire, Sébastien Chenu, au pouvoir, il n'arriverait pas ce genre de drame avec vous ?
Mais d'abord, si vous voulez, moi j'en veux effectivement au gouvernement parce que non seulement ils sont dans le déni, mais ils ont criminalisé ceux qui, comme le Rassemblement National, pendant des années ont fait des propositions. Nous, on a fait des propositions. Vous parlez du débat sur l'excuse de minorité. On a une proposition de loi qui a été déposée par un de nos députés. Ça fait longtemps qu'on a demandé à ouvrir ce débat. On nous a envoyé voir ailleurs.
Sébastien Chenu, le député RN, ce matin chez Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Bonsoir Céline Pinard.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste et la question est soulevée par Sébastien Chenu. On a l'impression que parce qu'il était d'origine afghane, eh bien c'est, j'allais dire, le raccourci est assez facile. C'est pour cette raison-là, parce qu'il y a tellement de choses dans la question migratoire, la question de l'immigration, que ce drame s'est produit. Est-ce qu'on peut aller aussi vite dans l'analyse, alors qu'en plus, il y a une procédure judiciaire qui est en cours?
En tout cas, on peut se poser la question de savoir comment se passe la cohabitation dans le même territoire et dans le même espace de gens qui vont provenir de cultures extrêmement éloignées. Par exemple, la culture occidentale, elle est basée sur l'égalité, elle est basée sur le respect de la minorité, elle est basée sur une relative douceur. J'allais dire, il n'y a pas de violence, la violence est proscrite dans les relations interpersonnelles. C'est absolument pas le cas, non seulement dans certaines cultures, mais dans certains endroits du monde. Et on fait venir dans nos pays des gens qui viennent d'univers mentaux à des dizaines de kilomètres, de très très éloignés du nôtre. Et a priori, si on les accueillait, si on avait des exigences, si on les formait à ce qu'exige leur nouveau pays, et si, lorsqu'il y a des dérapages et lorsqu'il n'y a pas de respect de ces exigences, ils étaient expulsés immédiatement sans autre forme de procès, je crois que le rejet de l'immigration ne serait pas là.
Oui, parce donc là, vous parlez d'un risque zéro si on prend le problème, j'allais dire, au tout début, en se disant, vous n'êtes pas en règle, vous ne cochez pas les cases voilà, qui correspondent à l'assimilation, appelons un chat un chat, et donc du coup on préfère se passer de vous plutôt que vous représentiez un risque sur notre sol, c'est ce que vous dites?
Oui, je veux dire être lucide sur les différences de culture qui vont faire que certaines personnes ne sont pas, on ne peut pas les laisser dans la nature comme ça. Les Afghans viennent d'une culture extrêmement éloignée de la nôtre, ils viennent d'un pays en guerre, ils ont subi la violence des talibans. On sait très bien que des enfants qui ont été soumis à certaines images et à certaines violences doivent être pris en charge. Or, en France, il n'y a pas de prise en charge, les gens arrivent, puis sont laissés complètement dans la nature. Il n'y a pas d'exigence, il y a très peu de formation, il y a très très peu même de transmission de nos valeurs, et même pas de nos lois, et donc forcément ça ne peut que mal se passer. Moyennant quoi, il y a un rejet de l'immigration qui est réel et qui est normal dans ce cadre-là.
Est-ce qu'il y a un problème avec les Afghans en particulier? Est-ce qu'en Afghanistan, selon ce que vous savez, on tue des gens quand on n'est pas content avec eux?
Il y a, c'est un pays dans lequel, oui, les relations de violence, ce sont des relations tribales.
Ça s'appelle un pays sauvage.
On ne tue pas des gens. on ne tue pas des gens parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Les relations tribales font que le bien et le mal n'existent pas. Il y a ce qui est bon pour la tribu, ce qui est mauvais pour la tribu. Mmh. Si tuer quelqu'un est bon pour la tribu, c'est pas un problème.
C'est
de
pas un problème
faire.
De tuer, d'accord.
C'est, bon. Ce sont des façons de voir le monde qui sont extrêmement différentes. Puis c'est surtout des endroits dans lesquels vous avez un pouvoir qui est extrêmement soit faible, soit ultra violent. Mais en tout cas, vous n'avez pas. On ne demande pas aux gens d'intégrer la norme. Nous en France, on utilise moins le bâton. Vous n'avez pas des gens qui. Vous savez, très souvent on dit dans certains pays, ah ben, oui. Les gens ne se permettent pas d'agir comme ça parce que sinon on les fracasse. Nous en France, on fracasse pas les autres parce que ce qu'on estime, c'est que quand vous êtes citoyen, vous avez intériorisé une norme et donc il y a des choses que naturellement vous ne faites pas et vous ne commettez pas.
Merci
et
beaucoup.
C'est ça qui est en train de disparaître.
Merci infiniment Céline Pina de votre éclairage sur ce sujet. Bonjour et bonsoir d'ailleurs plutôt à William Tay.
Bonsoir Pierre.
Président du think tank Le Millénaire. Bonsoir Nathan Devers.
Bonsoir Pierre.
Écrivain et philosophe. Alors on vient d'entendre cet exposé de Céline. Céline Pina qui est vraiment très au fait de l'actualité de certains pays. Est-ce qu'on est allé un peu vite, William Tay, dans, j'allais dire, le schéma Châteauroux, un gamin de 15 ans, poignardé par un autre gamin de 15 ans, et alors l'assaillant, eh ben, il est d'origine afghane, et donc du coup c'est là tout le nœud du problème.
Oui, on est allé un peu vite, parce qu'on a quand même un phénomène qui est majeur, c'est que maintenant des faits divers deviennent des faits de société, avec des jeunes qui se baladent avec des armes blanches. C'est une nouveauté, c'était pas le cas il y a une dizaine d'années, ou quand Nathan Devers et moi étions au collège, je pense pas qu'on se baladait avec des couteaux, ou que nos amis se baladaient avec des couteaux, mais maintenant c'est le cas. Des personnes se baladent avec des armes blanches pour sortir dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau phénomène de société et qui apparaît. Est-ce que c'est uniquement...
Et qui est presque un peu à la mode, parce qu'on a vu que l'assaillant s'était mis en scène dans une vidéo, donc... Là, on crâne avec un couteau.
Vous avez certaines parties de la population qui se baladent avec des armes blanches, tout simplement parce que c'est un phénomène qui est culturel. Et moi, je ne sais pas si c'est un phénomène migratoire. Je pense que c'est deux problèmes essentiels. Le premier, il est culturel, et le deuxième, il est en termes d'éducation. Ça veut dire qu'une grande partie des jeunes n'ont pas forcément les mêmes mœurs que la majorité de nos concitoyens. Ils considèrent que pour régler un différend, il faut le faire à main nue ou à arme blanche, plutôt que régler ça devant un tiers, éventuellement la police, la justice, ou devant un tiers capable de résoudre cette situation. Le deuxième point, pourquoi est-ce que c'est un lien migratoire et quand même un lien culturel? Tout simplement parce qu'une grande partie des personnes qui adoptent ce type de mœurs, malheureusement, proviennent, soit sont d'origine, ont des origines d'autres pays, ou viennent directement de l'immigration. Or, lorsque vous connaissez certains lieux d'immigration, et je peux en parler, et notamment lorsque vous avez fait un collège avec beaucoup de phénomènes, avec beaucoup de personnes qui viennent de l'immigration, on voit bien qu'il y a une différence entre globalement des personnes qui sont éduquées, qui sont entre guillemets blanches, et des personnes qui ont d'autres origines ethniques, tout simplement parce que les méthodes de règlement de différends ne sont pas les mêmes, le rapport de confiance envers la police et envers la justice n'est pas les mêmes, et donc certaines personnes considèrent qu'il faut régler ça à l'arme blanche. Je vais citer un exemple. Lorsque j'étais au collège en 6e, j'étais à Boulogne-Billancourt, je suis arrivé dans un collège dit de cité, et lors de la première semaine, une personne s'est fait poignarder pour 50 centimes. Voilà.
En 6e ?
En 5e, du coup, quand j'ai été transféré.
En 5e, d'accord. J'ai le souffle coupé. Nathan Devers, sur ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire, et notamment de ce que vient d'exposer Céline Pina ?
Il me semble qu'il y a non seulement une déontologie, mais une pudeur qui doit être respectée dans le débat public de la part de tout le monde, quand il y a des faits tragiques. Je n'aime pas l'expression de faits divers, parce que quand on dit faits divers, ça donne l'impression qu'on relativise, qu'on a une forme de mépris, voire de cruauté. Là, il y a un fait tragique. Il y a un enfant, un adolescent qui est mort, ses proches qui seront dans un deuil.
Non, les faits divers, pardonnez-moi, c'est vraiment ça. Hein, ça va. Il y a des choses totalement traumatiques dans les faits divers.
Oui, bien sûr. mais j'aime pas l'expression, parce que ça donne l'impression que...
Christophe Ondelat, vous n'aimez pas l'expression, mais c'est comme ça qu'on appelle.
Oui, bien sûr, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas du tout donner l'impression que je vais relativiser. En revanche, je pense que les faits divers ou tragiques, peu importe l'appellation, il ne faut pas les instrumentaliser dans le débat public en tirant la couverture vers l'idéologie qu'on veut, si vous voulez, brandir pour leur donner un sens. Et en l'occurrence, là, ce qu'on observe, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que certains ont pris ce qui leur plaisait, entre guillemets, ou ce qui allait dans leur sens, dans les quelques informations que nous avons au sujet de cette
drame. Qui sont assez maigres, hein, parce que c'est...
Et qui sont très maigres. Voilà. Bien sûr, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on le saura, ça prend des semaines, des mois pour qu'il y ait une enquête, tout ça doit être fait dans la rigueur. Et ils ont pris cette information, notamment sur la nationalité, personnalité, sur le fait que le suspect était afghan. Et à partir de là, on a vu tout un discours politique, en plus très souvent avec du racisme. Et j'aimerais juste dire une information qui me semble très importante. Le père de Matisse a demandé qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation en disant « Mon fils était un gentil, nous ne voulons pas de haine » et en visant spécifiquement ceux qui instrumentalisaient la nationalité afghane de cette personne. Et c'est intéressant, aujourd'hui, j'ai regardé sur les réseaux sociaux le nombre de personnes qui avaient instrumentalisé dans les dernières journées cette histoire et qui là ont insulté même le père. J'ai vu un tweet de quelqu'un qui disait « Je n'ai aucune pitié pour le père de Matisse parce qu'il il est complice de ce qui arrive à son fils. » 1200 likes. Et là, ça en dit très long. Je cite quelque chose qui est voulu par le bas, je ne cite pas un politique, je cite vraiment ce qui se passe sur les réseaux. Ça en dit très long sur l'état d'une société où on peut faire 1200 likes pour insulter le père d'une victime tout en prétendant le défendre contre cette insécurité.
Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même faire une étude aussi, une exégèse sur les personnes qui likent ? Est-ce que ce n'est pas le pouce qui sans même avoir une connexion au cerveau, like parce qu'il y a un truc qu'on a à peine vu. Enfin, je ne sais pas, vous êtes plus spécialiste que moi, IMT, que moi sur les likes ou sur les pas likes. Il y a quand même une chose, vous avez effectivement parlé d'instrumentalisation. Sur les statistiques, IMT, il faut se rendre à l'évidence, les personnes d'origine étrangère ou issues de l'immigration ou les immigrés, les migrants clandestins en France sont majoritaires dans les violences urbaines et faites aux personnes.
Alors, on a une statistique qui est très claire parce qu'on n'a pas le droit de faire statistiques ethniques en France, c'est quelle est la part des étrangers, notamment en différence entre nationaux et étrangers, dans la part de la criminalité. On a les statistiques, notamment en région Île-de-France, auxquelles ils représentent entre 65 et 65% des crimes et des délits commis en Île-de-France.
Donc,
les deux tiers. Et ce n'est donc pas des personnes d'origine étrangère, c'est uniquement les étrangers versus les nationaux. Donc on voit bien quand même qu'il y a une part de la délinquance qui est notamment commise par les étrangers, mais ensuite après, est-ce qu'on peut en traduire spécifiquement sur certains types de comportements? Moi, le point que je vois quand même en termes d'évolution de la société, c'est les méthodes de règlement différents. C'est-à-dire que des personnes puissent se battre parce qu'ils ont un différent, ça arrive. Mais le fait qu'on puisse sortir une arme blanche, qu'on ait une intention, du coup, de tuer quelqu'un, est quand même un rapport qui est complètement différent.
Mais il n'y a pas de rixe, là, en l'occurrence.
Oui, mais que vous ayez un différent avec quelqu'un, ça arrive. Mais à l'époque, lorsque vous aviez un différent avec quelqu'un, dans une société dite civilisée, surtout dans une démocratie, vous avez un différent, vous l'insultez ou vous haussez la voix éventuellement.
Est-ce que vous incluez les vols dans les différents? Parce que là, en l'occurrence, il y a un vol de portable.
Oui, non, mais ça peut arriver. Mais maintenant, à chaque fois qu'il y a un différent, tout de suite, il y a la volonté de nuire très fortement, de blesser gravement, et donc de sortir une arme blanche. C'est quand même un fait de société.
Avant de se parler, avant de régler les choses, entre guillemets, à l'amiable.
Quand vous regardez la société, notamment post-Covid, lorsque vous avez deux voitures qui se cognent entre eux, combien de différents très forts vous avez avec des personnes qui se tapent dessus, alors qu'avant, ça pouvait se régler de manière beaucoup plus calme. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on a une société qui était beaucoup plus calme et une société maintenant qui est devenue beaucoup plus conflictuelle. C'est le premier élément qu'on peut tirer. Le deuxième point, c'est la jeunesse des personnes. C'est-à-dire que lorsque vous avez des différends et des règlements qui étaient très forts, c'était plutôt des personnes soit qui s'approchaient de 18 ans, soit qui étaient majeures. Là, maintenant, vous avez des personnes qui se battent quasiment à mort et c'est pas uniquement le seul fait divers. Ça devient un fait de société parce que vous avez une multitude de personnes qui ont désormais 15 ans et ça a été retranscrit notamment dans les émeutes urbaines qui ont été les plus violentes depuis 2005 avec une baisse de l'âge, avec des personnes qui sont très violentes là, et qui sont très jeunes.
Là, juste, pardon, hein, William, mais sur les circonstances du drame, il y a vol de portable, je viens récupérer mon portable, l'autre n'est pas d'accord, il y a une bagarre qui s'enclenche, et puis arrive l'irréparable.
Disons que dans les établissements publics que j'ai connus, j'ai déjà connu ce type de comportement, et malgré tout, ce n'était pas quelque chose de commun. Alors que maintenant, dans ce que racontent les personnes qui sont dans mon équipe, ça devient régulier dans certains quartiers du territoire de la République française.
Oui, parce que dans votre équipe, il y a énormément de jeunes et qui viennent de quartiers très très différents, donc au think tank Le Minaire. Juste sur la façon dont on solutionne les problèmes, on a remarqué, il y a bagarres, différents, appelez ça comme vous voulez, on peut mettre dans la grande famille des différents également les bagarres et les vols. Il y a donc mort, puisque on a pratiquement un gamin de 15 ans qui se fait tuer tous les jours aujourd'hui en France. Et derrière, on a quoi ? On a une marche blanche. Et on a l'impression que cette marche blanche va tout solutionner, Nathan Dever.
Il ne s'agit pas, encore une fois, je pense, de solutionner. Il s'agit de la pudeur républicaine. J'entends bien.
Ça s'appelle la non-solution, la pudeur.
Mais en l'occurrence, il me semble que c'est central pour notre corps social. J'entends bien depuis une dizaine d'années beaucoup de gens qui disent il y en a assez en France quand il y a des drames, que ce soit du terrorisme, que ce soit des faits tragiques ou divers catastrophiques. Eh bien, les gens font des marches blanches, ils mettent des peluches, ils font des bougies. Ça sert à rien, les petites fleurs et les couronnes. Il faut agir. Je suis désolé. On a vu récemment en Russie, quand il y a eu un attentat à Moscou, la Russie refusait de rentrer dans cette logique de la marche blanche pour être dans une autre logique, qui était la logique de l'exhibition des suspects, de la vengeance. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, je le dis, l'adresse des parents de suspects a été diffusée massivement sur les réseaux sociaux. 2 ou 3 000 likes. Et encore une fois, je cite ça parce que c'est très significatif. Mmh. Donc, en effet, la marche blanche, les bougies, les peluches, les hommages, c'est pas du registre des solutions, mais c'est du registre qui est absolument vital et existentiel de préserver notre dignité et notre humanité face à des drames. Ce que je vois, et pas seulement sur ce drame, c'est quand même une belle armada de charognards de la politique qui instrumentalise, qui souffle sur les braises en se nourrissant du sang des victimes et contre l'avis des parents. C'est objectivement ce qui est en train de se passer.
Vous restez avec nous, Nathan Devers et William Tay. Dans un instant, nous accueillerons le président des Jeune Républicain qui va nous parler de cette liste pour les européennes sur laquelle il figure d'ailleurs en 9e position. Guillaume Carayon est avec nous juste après l'information.
Europe 1, le journal permanent.
Le journal permanent avec vous, Maëlle Assani.
Bonsoir à tous. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé en Israël. Anthony Blinken veut faire pression pour qu'une trêve des combats à Gaza soit signée. Il appelle le Hamas à accepter sans plus tarder l'offre mise sur la table par les négociateurs. L'État hébreu attendra la réponse du mouvement terroriste jusqu'à demain soir, mais une offensive sera lancée sur la ville de Rafah, qu'un arrêt des combats soit acté ou non. De nouvelles actions pro-Gaza organisées par des étudiants à Rennes, Lyon, Grenoble, Toulouse ou encore Dijon, mais aussi à la fac de Tolbiac à Paris qui a dû fermer à la mi-journée. À Saint-Etienne, les forces de l'ordre ont dû évacuer l'université. Châteauroux va dire adieu à Matisse samedi prochain. Une marche blanche sera organisée pour rendre hommage à cet adolescent de 16 ans mortellement poignardé en pleine rue le week-end dernier. Le principal suspect est un Afghan âgé de 15 ans. Il est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire depuis la nuit dernière. Le motif terroriste n'est pas retenu à ce stade à Londres après une attaque à l'épée dans les rue d'un quartier résidentiel ce matin. Un jeune de 14 ans est décédé. 4 autres personnes sont blessées, dont 2 policiers. Le suspect, un homme de 36 ans, a été interpellé. Et puis dans moins d'une demi-heure, coup d'envoi de la première demi-finale aller de la Ligue des champions de football. Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid avant le choc Dortmund-Paris-Saint-Germain. Ce sera demain soir.
Merci Maëlle Assani.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
L'invité politique d'Europe 1 soir est Guillaume Carayon. Bonsoir.
Bonsoir.
Candidat aux élections européennes, porte-parole. Vous avez une carte de visite, vous savez, comme les grands chefs d'entreprise, là, qui mettent leur légion d'honneur et leur médaille du mérite, etc. Vous êtes candidat aux élections européennes. Bon, ça, c'est très bien. Vous êtes en 9e position. Porte-parole et vice-président des Républicains et président des Jeunes Républicains. Moi, quand je vous ai connu, vous étiez juste président des Jeunes Républicains. Donc, c'est ce que je retiens. Bon, Guilhem. Guilhem ou Guilhem, d'ailleurs ?
Guilhem.
Guilhem. Alors, entendons-nous bien. Guilhem Carayon. Retenez ce nom, puisque ça va grandir. Enfin, vous avez déjà grandi. Vous êtes 9e sur cette liste de 31 noms qui a donc été révélée, avec évidemment tête de liste François-Xavier Bellamy pour les Européennes. Cette liste de 31 noms, comment est-ce qu'elle a été choisie ?
Écoutez, il y a une commission d'investiture qui s'est réunie ce matin et qui a délibéré. La présidente de la commission d'investiture est Michèle Tabarot, députée des Alpes-Maritimes, et c'est le président des Républicains et notre candidat aux élections européennes, François-Xavier Bellamy, qui ont fini par trancher ce matin. Et donc, vous avez effectivement 31 noms qui ont été sortis aujourd'hui et qui seront de candidats en position éligible.
Alors, il y a 31 noms, je le disais. Il y a deux noms dont on parle beaucoup, c'est Nadine Morano et Brice Hortefeux, qui sont des sarkozystes historiques, qui sont là en 6e, en 7e position. Après, il y a effectivement des noms qu'on a moins l'habitude de voir, notamment Céline Imar, qui est numéro 2, Laurent Castillo, Anne Sander. Enfin, il y a des gens qu'on a l'habitude de pas trop croiser.
Ouais, Céline Imar est une agricultrice de mon département du Tarn qui est très talentueuse et qui défend les intérêts des agriculteurs depuis déjà de longues années au sein de sa formation professionnelle. Vous savez, moi je me suis engagé dans ma famille politique chez LR pour changer les choses de l'intérieur, pour renouveler les visages, pour faire émerger une nouvelle génération.
Ça veut dire que vous n'êtes pas aussi content avec les numéros 6 et numéros 7.
Et aussi pour changer les méthodes. Je crois que dans une famille politique, quand il y a une liste, notamment pour les élections européennes, qui est choisie, on lave son linge sale en privé, en famille.
Ce qui n'est pas le cas des anciennes méthodes.
Mais moi, je crois que aujourd'hui, on a une liste qui allie renouvellement et expérience. Je pense qu'on aurait pu davantage renouveler.
Je pense que la place des jeunes dans notre famille politique doit être encore plus importante.
Donc vous virez tous les vieux, quoi. Hortefeux dehors,
non, non,
Morano.
Non, je crois que c'est
peut-être
important.
Comme le président argentin. À fouet, là.
Non, non, c'est évidemment important d'avoir une dose d'expérience, d'avoir des gens qui connaissent parfaitement leur dossier et qui ont travaillé pour défendre les intérêts français au Parlement européen. Mais il faut aussi du renouvellement. Vous savez, moi, je suis le plus jeune candidat de cette liste. Pour l'instant,
quel âge avez-vous maintenant, Guilhem? Parce que je vous ai connu.
Ans. Mais 24 ans.
Vous en aviez 18.
Mais le deuxième candidat le plus jeune, c'est François-Xavier Bellamy, qui a 38 ans. Donc je pense qu'on peut encore faire plus pour le renouvellement
mais
de notre famille politique.
Ça, qu'est-ce que ça apporte, la jeunesse? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? On a dit ça d'Emmanuel Macron en 2017. Regardez, c'est le président le plus jeune. Qu'est-ce que ça apporte?
Moi, je veux me battre au Parlement européen pour défendre
les
combats. Non, mais je vais finir ma phrase.
Oui.
Je veux me battre pour défendre les combats de ma génération. Je fais partie d'une génération qui a grandi qu'avec des crises. La crise économique et sociale qui a commencé en 2008, la crise climatique qui est, je pense, une question existentielle pour beaucoup de jeunes et qui est moins perçue comme existentielle par une autre génération, la crise de l'insécurité, la crise civique démocratique. Face à toutes ces crises, moi j'ai envie de m'engager parce que je crois que c'est pas une fatalité. Et il y a des jeunes qui sont patriotes, qui sont enracinés, qui ont envie de se battre pour faire bouger les choses. Et je pense que c'est important de faire émerger cette nouvelle génération qui, parfois, a peut-être plus d'énergie à revendre et qui est capable de vraiment faire bouger les lignes au sein du Parlement européen.
Cette liste, alors je disais qu'il y avait des inconnus, par exemple Nathalie Collin-Esterlet, c'est une vraie technicienne européenne, elle a le nez, j'allais dire, dans le guidon depuis de nombreuses années, et elle connaît parfaitement le Parlement européen, mais on a l'impression quand même que cette liste, elle arrive tard, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a eu des atermoiements, qu'il y a eu des négociations, qu'il y a eu des moments où il a fallu faire plaisir à certains, et justement, je reviens peut-être aussi CE7, fallait peut-être leur faire aussi une petite... Peut-être que la rue de Miroménil l'a appelé à un moment donné en disant qu'est-ce que vous faites
si
de Nadine et de Brice?
Si c'est le cas, je le regrette. Si l'ancien président de la République a influencé notre liste aux élections européennes, je le regrette. Parce qu'aujourd'hui, il ne nous soutient plus. Il soutient une autre famille politique. Il a soutenu Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle. Donc si c'est le cas, c'est déplorable. En revanche, moi je crois qu'on n'est pas en retard.
C'est sévère ce que vous dites contre Nicolas Sarkozy. Il a toujours parlé de sa famille politique en visant les LR.
Qui a-t-il soutenu à la dernière élection présidentielle?
Est-ce qu'il avait le choix de soutenir quelqu'un d'autre?
Oui, je crois qu'il pouvait faire le choix de la fidélité, le choix du courage.
En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai
fait. Oui, c'est le choix qu'on a fait. Il y avait des choses qui n'allaient pas pendant cette campagne. On pouvait le dire après.
Est-ce que tout est rationnel dans un choix politique, dans un choix d'un soutien d'un candidat pour... là, en l'occurrence, ce sont les européennes. Je ne dis pas que c'est moins bien, mais il y a une présidentielle.
Moi, je vais vous dire, dans une famille politique, moi, je crois à la fidélité. Je me suis engagé dans cette famille politique. Je savais que tout n'allait pas bien dans cette famille. Et oui. Je me suis engagé pour changer ce qui allait pas.
Ne parlez pas au passé.
Mais
J'ai été élu
président des Jeunes LR en 2021, il y a 3 ans. J'avais la quasi-totalité de la direction de ma famille politique qui était opposée à ma candidature. Donc moi, on m'a jamais fait de cadeau. On m'a jamais fait de cadeau dans cette famille. Et d'ailleurs, la place qu'on m'offre pour cette élection, 9e, vous l'avez remarqué, est à la limite de l'éligibilité.
C'est ça.
Donc ça me force à mener campagne avec peut-être plus d'audace, plus de force que d'autres candidats.
Vous disiez que dans les 31, il y a beaucoup de gens qui ont la niaque, qui ont envie d'y aller. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a aussi... c'est un peu le problème du verre à moitié vide et à moitié plein, c'est qu'il y en a plein qui ne voulaient pas y aller, justement.
Oui, je crois que tout le monde est déterminé aujourd'hui à créer la surprise. On sait, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette bataille qui n'est pas simple, parce qu'on a le meilleur candidat, je le crois. Le plus sérieux, le plus méritant, le plus travailleur.
C'est pareil, on a mis du temps à accoucher du nom de François-Xavier Bellamy.
Moi, j'ai toujours plaidé au sein de ma famille pour que ce soit
vu la tête de liste. C'est très bien, mais le fait que Éric Ciotti annonce le nom de François-Xavier Bellamy, c'est pareil.
Président de LR, Éric Ciotti a choisi son timing. Vous avez parlé de la liste qui est désignée tardivement. Celle du Rassemblement National sera désignée dans quelques jours, elle n'a pas encore été.
Oui, enfin, est-ce que vous vous faites du souci pour le Rassemblement National qui, dernier sondage, est à 32%?
La liste de Renaissance qui perd des points de jour en jour n'a pas encore été dévoilée. Donc je pense que dans toutes les formations politiques, les listes sont désignées assez tardivement. Bon, c'est peut-être regrettable, mais c'est comme ça. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle du bilan de chacun des candidats aux élections européennes, parce que ceux qui vendent du rêve, ceux qui font de la communication et qui disent qu'ils vont tout changer à l'Europe alors qu'ils ne l'ont pas fait pendant 5 ans, j'ai honnêtement un peu de mal à y croire.
Ça veut dire quoi? Vous parlez de Jordan Bardella en particulier?
Oui, de Valérie Ayer, de Jordan Bardella.
Attends, on va faire l'un après l'autre. Alors Jordan Bardella, 32%, là, dernier sondage Odoxa que j'ai sous les yeux. 32% pour Bardella, qu'est-ce qui se passe avec Bardella? Pourquoi est-ce que ça ne vous plaît pas?
Mais parce qu'il a déjà gagné les élections européennes en 2019.
Et donc?
Parce que sa famille politique a gagné les élections européennes en 2014. Qu'est-ce qui a changé? qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Français ?
Qu'est-ce qui a changé ?
Je crois que Jordan Bardella et son groupe, d'ailleurs au Parlement européen, qui est isolé, qui est marginal, qui n'est pas capable de mener des coalitions, n'a pas changé une virgule d'un texte européen. Nous, on se bat parce qu'on pense qu'on a le candidat qui est le plus à même de défendre les intérêts de la France en Europe.
Alors,
on a un candidat qui se bat pour le pouvoir d'achat des Français, qui défend le nucléaire. On a un candidat qui se bat pour défendre la civilisation européenne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait fait voter un amendement pour interdire, une campagne de promotion du voile islamique de la Commission européenne. On a un candidat qui se bat pour défendre les agriculteurs. Et je crois que l'Europe, c'est un combat de tous les jours. La question, c'est pas dans cette élection européenne, plus d'Europe, le camp macroniste, moins d'Europe, le camp de Jordan Bardella. La question, c'est quel candidat est le plus à même de défendre les intérêts de son pays au Parlement européen.
Vous savez très bien que vous devez composer avec les autres pays. C'est bien le principe des élections européennes. C'est qu'on intègre ensuite un autre groupe européen et on se bat, comme vous le dites, ou pas d'ailleurs, avec d'autres pays européens pour... Donc comment est-ce que vous voulez influer sur la politique de la France ?
Mais écoutez, moi je me sens absolument légitime à dire que j'ai pas envie que mes alliés, ce soient les Allemands de l'AFD, l'extrême droite allemande. Mmh. Jordan Bardella est allié avec l'AFD. Mmh. C'est un parti qui est partenaire du Rassemblement National historiquement depuis toujours, et ils n'ont pas prévu de changer ce partenariat. Moi, je regarde les différentes alliances européennes. Vous savez, nous, on est membre du PPE. C'est le plus grand groupe au Parlement européen. On n'est pas d'accord sur tout, et notamment la présidente de la Commission européenne qui se représente, Ursula von der Leyen, François-Xavier Bellamy, c'est la voix qui défend qu'elle soit pas la prochaine présidente de la Commission européenne, qu'elle soit pas candidate à sa réélection. Bien, on se bat. On a besoin d'avoir le plus de parlementaires européens français qui soient sur cette ligne pour permettre une solution alternative et faire en sorte qu'on sorte de cet agenda de la décroissance agricole, alimentaire, qui je crois, a nuit aux intérêts des peuples européens. Donc moi, je crois que dans cette campagne, le vote utile pour tous les électeurs de droite, c'est François-Xavier Bellamy. Et quand je regarde la liste macroniste qui est dirigée aujourd'hui par Valérie Hayer, vous savez, elle a commencé sa campagne...
également le PPE, hein.
Non. Elle est membre du groupe des libéraux au Parlement européen, qui est un groupe qui est aussi marginal.
Vous, c'est PPE, c'est libéraux.
Exactement. Et c'est au PPE que les choses se passent. Mmh. Et je pense, les sondages en tout cas le montrent aujourd'hui, qu'à l'issue des élections européennes, le 9 juin, PPE restera majoritaire. Donc c'est au sein de ce groupe que les choses vont se jouer. Mais ce que je vais vous dire sur Valérie Hayer, c'est qu'elle a commencé sa campagne européenne il y a quelques semaines en disant « Moi j'ai 90% de vote commun avec Raphaël Glucksmann ». Raphaël Glucksmann, il faut dire ce qu'il est, il est de gauche. Il a soutenu d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon à la dernière élection présidentielle. Donc moi, je pense que la liste macroniste aujourd'hui, qui parfois défend ce qui pourrait s'apparenter au centre-droit à Paris, défend les intérêts de la gauche au Parlement européen. Donc tous les électeurs de droite doivent savoir que dans cette élection, le vote utile pour défendre leurs intérêts, c'est François-Xavier Bellamy.
Qu'est-ce que vous répondez à Marion Maréchal qui parle d'islamo-droitisme pour ces élections européennes ?
Mais si elle a des preuves que des élus sont des islamo-droitistes, qu'elle les apporte à la justice, c'est pas sur Twitter qu'on règle des comptes pareils. Moi, en tout cas, je vais vous faire une confidence. J'ai jamais vu d'élus islamo-droitistes dans mon parti. J'ai jamais fait campagne avec des élus islamo-droitistes. Et je pense que c'est honnêtement un peu caricatural. On est de droite, une droite enracinée, une droite qui défend une certaine civilisation, la nôtre, française, européenne. On peut pas nous accuser d'être des islamo-droitistes. C'est un peu caricatural.
Guilhem Carayon, vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le débrief avec William Tay et Nathan Devers. Après, un rappel de l'actualité. Et c'est tout de suite sur Europe 1.
19h, 21h, Europe 1 soir.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ? Prise de poids rapide ? Pieds et chevilles gonflés ? Fatigue excessive ? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1. Europe 1, le journal permanent.
Le journal permanent après la Sorbonne hier et Sciences Po Paris la semaine dernière. D'autres universités françaises bloquées aujourd'hui par des manifestants pro-Gaza à Tolbiac par exemple à Paris, mais aussi Rennes, Saint-Etienne, Lyon, Grenoble ou encore Dijon. Une marche blanche organisée samedi prochain à Châteauroux, une semaine après le meurtre de Mathis, 16 ans, à l'arme blanche en pleine rue. Le principal suspect, un ado afghan de 15 ans, est mis en examen et placé en détention provisoire. Bayern Munich, Real Madrid, c'est l'affiche de la première demi-finale allée de la Ligue des Champions de football. et le coup d'envoi est exactement dans 17 minutes.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Toujours en compagnie du président des Jeunes Républicains, candidat à l'élection européenne, Guilhem Carayon, Nathan Devers, William Tay, c'est à vous. Alors, William Tay.
Bah écoutez, le point principal qui est posé aux Républicains, c'est la question de la stratégie de la ligne politique, tout simplement parce que les Républicains ont varié, ils apparaissent pour une partie des électeurs comme trop proches de Macron depuis la réforme des retraites. Cependant, en fait, la vague actuellement dans les sondages est plutôt du côté du Rassemblement National. Or, je pense que du coup, les Républicains auraient dû adopter une stratégie qui était beaucoup plus claire, beaucoup plus à droite, beaucoup plus marquée dans une opposition avec Emmanuel Macron, et que le choix de cette liste aurait dû se traduire, notamment pour montrer notamment qu'ils étaient une liste anti-macroniste et qu'ils étaient capables de porter une autre opposition. Parce que si par cas les Républicains ne sont pas forts, notamment ce qu'on voit notamment en Europe, on voit bien qu'en fait ce qui se passe, très clairement, c'est qu'en fait soit c'est l'extrême droite qui monte, soit c'est la droite qui est en capacité de pouvoir répondre aux préoccupations populistes et aux montées notamment des questions qui sont identitaires, portées sur les questions d'immigration, de la violence et de l'insécurité. Et pour ça, je pense, bon, comme il est là, je vais essayer de le soutenir un peu, qu'on aurait dû mettre des profils qui étaient beaucoup présenter cette évolution de société et peut-être que des jeunes qui s'étaient beaucoup plus marqués par cette évolution et ces grandes mutations auraient pu reporter ces revendications au sein du Parlement européen.
Nathan Devers.
Il me semble que François-Xavier Bellamy, et je sais que j'aurais plein de désaccords avec lui sur mille et un sujets, mais enfin c'est sans doute le seul candidat aujourd'hui qui est un intellectuel, qui n'est pas seulement le nez dans le guidon de la petite politique,
Glucksmann,
avec une vision... Ah oui, avec Raphaël Glucksmann, vous avez raison. Qui est dans le guidon des histoires technocratiques.
C'est bien, ça fait du bien que ce soit avec Xavier Devaux quand même, hein, William.
Oui. J'ai défendu la droite et vous défendez le Parti Socialiste, le Monde est inversé, c'est
bon. Glucksmann qui sera notre invité d'ailleurs lundi 6 mai, justement, à 20h30.
Bon. La question qui se pose, à mon avis, pour lui, c'est va-t-il réussir à donner davantage de hauteur au débat public? Parce que ce qu'on peut voir, c'est que le début de ces campagnes est vraiment catastrophique du point de vue de la qualité du débat. Je ne parle pas seulement des sondages. Et moi, en vous écoutant, je me posais une question. C'est aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une grande confusion dans la question de savoir quel est le thème qui doit s'imposer dans cette élection. Alors certains ont misé sur Gaza, d'autres misent sur l'immigration, etc., etc. Il me semble que face à cela, la question qu'on doit se poser, et qu'un intellectuel surtout doit se poser, c'est dans 50, 100 ans, que diront les historiens sur les élections qui se passent ces mois-ci? Et il me semble, je me trompe peut-être, hein, mais que l'événement majeur, et je m'étonne qu'on n'en parle pas assez, sauf la liste d'Emmanuel Macron, parce que ça va dans son sens, mais on devrait en parler davantage, c'est que pour la première fois de toute l'histoire de l'Union européenne, nous avons des élections où la notion même d'Europe est en jeu. Ça veut dire où l'Europe ne peut plus être présentée comme un mot creux, comme un slogan, comme un projet abstrait, comme un projet de technocrate, mais ça devient quelque chose qui est directement menacé, menacée en Ukraine, à nos frontières, menacée de l'intérieur par des déstabilisations qui sont de plus en plus claires. Regardez sur ces derniers mois la manière dont les Russes ont menacé la vie politique française. Ces étoiles de David sur les immeubles de Paris juste après le 7 octobre pour déstabiliser et créer de la psychose dans le pays. On sait qu'il y a eu beaucoup de piratage de ministères, etc., etc., qu'ils ont pesé dans les dernières élections présidentielles, enfin en 2017, pardon. Donc il me semble que les Républicains devraient aussi, même si c'est peut-être pas dans leur avantage électoral immédiat, mais devraient porter ce sujet-là, le sujet de l'Ukraine, mais le sujet plus généralement de notre rapport à la Russie et le sujet du sens de l'Union européenne, et que c'est peut-être ce qui peut permettre à un intellectuel comme François-Xavier Bellamy d'émerger par rapport aux autres candidats de droite.
C'est ce qui fait toute la spécificité justement de cette élection qui, rappelons-le, est une élection européenne. Qu'est-ce que vous pensez du débrief de nos chroniqueurs, Guilhem Carayon?
Mais je suis assez d'accord avec vous deux d'ailleurs, sur l'étape différente. D'abord avec William Tay, quand la droite est de droite, quand elle affirme une ligne claire, décomplexée, assumée, il n'y a pas d'extrême droite. C'est le cas dans tous les pays européens. Quand la droite assume un programme conservateur, l'extrême droite baisse. Quand on fait baisser l'immigration, quand on assure la sécurité des peuples, quand le travail paye mieux,
quand on a des sujets régaliens qui viennent dans le discours.
Puis la liberté économique, quand on baisse la fiscalité, notamment sur les classes moyennes et les classes populaires, quand le boulot est fait, quand la droite fait le boulot, eh bien, il n'y a pas d'extrême droite. Et d'ailleurs, on le voit dans les collectivités locales, tous les présidents de région, présidents de département, maires de droite, qui font la bonne gestion au quotidien, bah, ils relèguent l'extrême droite, le Rassemblement National, à des scores très très faibles. Ce qui prouve que on peut être bon, mais il faut appliquer cette ligne-là au national. Ce que vous avez dit est très intéressant. Ce qu'a dit Nathan Devers est très intéressant aussi. Je crois que dans cette campagne, on parle uniquement des thématiques nationales. On a raison de parler de la question du pouvoir d'achat, on a raison de parler de la question de l'insécurité, on a raison de parler de toutes ces thématiques qui devraient être essentielles dans une élection présidentielle. Pour une élection européenne, j'aimerais bien qu'on parle aussi des questions qui relèvent des prérogatives du Parlement européen. Parce qu'on vote pour ça. Et on va avoir des parlementaires qui vont avoir un mandat de 5 ans et qui vont voter. Moi, j'ai envie que les Français soient éclairés sur les principales décisions qui vont être au cœur de l'agenda européen. Et évidemment, la question de la sécurité collective des peuples européens à travers le conflit russo-ukrainien est essentielle. Et on en parle très peu, ou alors par communication, par caricature. Et le président de la République, je crois, a joué un peu un jeu malsain, a participé à un jeu malsain sur cette question-là.
Il faut arrêter là.
Bon, parce que il a compris que c'était son avantage électoral que d'amener ce sujet-là, mais je crois que le débat s'est installé sur des bases qui sont pas très claires. Moi, j'aimerais qu'on dise concrètement comment on peut aider le peuple ukrainien. En gros, moins de mots, moins de paroles, moins de palabres, plus de munitions, un soutien matériel, militaire plus important, sans envoyer de troupes au sol. Ça, c'est aussi une différence qu'on a avec le président de la République.
IMT. Pour rebondir,
le point essentiel pour les Républicains, s'ils veulent se reconstruire, il y a deux sujets. La question d'être audible et la question d'avoir une utilité. C'est-à-dire qu'actuellement, les Républicains se sont fait piller une partie de leur programme économique par Emmanuel Macron. C'était le cas notamment en 2017, c'est pour ça qu'une partie des électeurs a soutenu Emmanuel Macron plutôt que Valérie Pécresse en 2022. Et une partie de leur programme se notamment portée sur l'ordre. Et une partie des électeurs se disent que le Rassemblement national est plus crédible qu'eux. Mais par contre, ils ont une utilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par cas voulait la liberté économique et voulait restaurer l'ordre dans le pays, eh ben ils ont une utilité, notamment du fait qu'Emmanuel Macron ait montré quand même son incompétence sur les questions économiques. Il nous a été vendu comme le Mozart de la finance, et aujourd'hui c'est le Madoff des finances publiques. Il a un niveau de finances publiques et un niveau de déficit public qui est équivalent à ce qu'aurait pu être Jean-Luc Mélenchon. Si vous enlevez
le
Emmanuel
Macron, 1000 milliards,
il a augmenté de 1000 milliards la dette, alors que 40 ans de président ont augmenté de 2000 milliards. Sur la question de l'ordre, ils ont notamment une question de crédibilité. Ça veut dire qu'ils doivent faire proposition par proposition. Est-ce qu'ils sont capables de restaurer, de protéger les flux migratoires, de pouvoir restaurer l'ordre et la sécurité mieux que notamment Jordan Bardella et Marion Maréchal
Le Pen. Très court, Nathan et ensuite Guilhem Carayon.
Moi, très rapidement, je voulais faire une remarque sur la stratégie des Républicains, pas seulement pour ces élections, mais en général. Et je suis en désaccord avec votre analyse. Votre analyse consistant à dire qu'il faut une droite forte pour faire baisser l'extrême droite. Il me semble que cette analyse est fausse pour deux raisons. D'abord parce que quand on court après les thèmes de l'extrême droite, dans une société de plus en plus polarisée, il n'y a aucune raison, si vous voulez, de ne pas adhérer
à la copie.
On préfère l'original à la copie. Deuxièmement, parce que ça, c'est la méthode Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, 2007, qui avait par ailleurs énormément de talent, le sujet n'est pas là, mais qui a fait le choix de se faire conseiller par Patrick Buisson, de reprendre un certain nombre de questions, et on a vu que ça a marché pour 2007, ça n'a pas marché pour 2012. Il me semble qu'il y a une autre méthode, qui est oubliée, et qui est celui de votre ancêtre politique lointain, le président français le plus populaire des anciens présidents, qui était la méthode Jacques Chirac. Jacques Chirac, il est élu sur quoi en 95? Il est élu avec les conseils de Pilan, c'est-à-dire de Mitterrand. Il est élu sur la fracture sociale, sur un thème de gauche. Jacques Chirac, il a porté un certain nombre de sujets, en étant un homme de droite, avec des vraies intuitions qui rassemblait la société. Aujourd'hui, il serait presque considéré comme un woke sur certains
sujets. Bon, vous voyez, Guilhem Carayon, malheureusement, le temps nous manque, mais vous repartez avec énormément de conseils. et ce que je vous propose, c'est de revenir une prochaine fois pour justement savoir si vous avez bien digéré les conseils de Nathan et de William. Dans un instant, on retrouve Stéphane Bern et qui nous parlera également du roi Charles. Mais juste avant, le meilleur du web sur Europe 1.
Europe 1 soir,
19h, 21h,
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir Solène Delinger.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Solène de la rédaction du web d'Europe 1. Et alors justement, on va passer en revue tout ce qui cartonne sur le web, sur les réseaux sociaux. Et commence par Manuel Valls chez Sonia Mabrouk.
Oui, donc Manuel Valls qui était l'invité de Sonia Mabrouk hier matin sur Europe 1 et CNews. La vidéo a été visionnée plus de 40 000 fois sur Instagram. Et on comprend bien pourquoi l'ancien Premier ministre a donné un avis très tranché sur un sujet d'actualité brûlant, à savoir la situation à Sciences Po. Il n'a pas supporté l'accord conclu entre la direction et les étudiants pro-palestiniens pour lever les blocages et il n'a pas mâché ses mots. On écoute.
On va se plier aux exigences de l'extrême gauche, de la France insoumise et de fait de leurs alliés islamistes qui terrorisent la majorité
et, comment vous appelez
et qui bloquent Sciences Po.
Comment vous
qualifiez ? J'appelle ça de la lâcheté, j'appelle ça une reddition et j'appelle ça de la soumission parce que cela rappelle en effet le livre de Michel Houellebecq.
Alors, vous l'imaginez bien, Pierre, ces propos de Manuel Valls divisent les internautes. Mmh. L'un d'entre eux nous écrit dans les commentaires « Bravo, monsieur le ministre, vous êtes digne de la vraie gauche républicaine ». D'autres, au contraire, lui reprochent son manque de nuances et son côté excessif. En tout cas, le débat est ouvert.
Et comme il y a 2 millions de commentaires, on ne va pas tous les lire. Gaspard Proust, ce matin également, la chronique sur Kenji. Hein.
Oui, elle est dans le top 10 des contenus les plus visionnés sur le site web d'Europe 1. Bon, ce n'est pas surprenant, puisque l'affaire Kenji Girac a défrayé la chronique la semaine dernière, notamment avec cette conférence de presse du procureur de la République de Mont-de-Marsan, qui a dévoilé tous les aspects de la vie privée du chanteur pour expliquer sa blessure par balle. Bon, Kenji a simulé un suicide pour retenir sa femme Soraya, qui menaçait de le quitter à cause de ses problèmes d'alcool et de drogue, ce qui a évidemment inspiré notre cher Gaspard.
Non, moi j'ai résolu le problème en amont.
C'est-à-dire ?
Il y a une méthode très simple pour jamais se faire quitter, c'est de jamais se mettre en couple. Je vous assure, c'est une méthode radicale. 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est comme l'épilation en laser, c'est définitif. Et c'est tout con comme technique.
Hein. Oui.
Ah ouais, une fois Nana a débarqué, elle me dit « Bon Gaspard, j'ai beaucoup réfléchi. » Bon, là, le plus dur c'était de pas me retenir de rire. Et c'est décidé, je te quitte. Et moi, ah bon, on était ensemble, première nouvelle.
Si vous avez manqué la chronique de Gaspard Proust ce matin, je vous conseille de foncer la réécouter sur notre site, donc europe1.fr. Et évidemment, vous pouvez retrouver des extraits sur les réseaux sociaux.
Et sur Twitter, Pascal Pro qui revient sur la petite phrase de Léa Salamé à l'humoriste Artus dans Quelle Époque ?
Oui, bon, c'est une polémique très française. Samedi soir, sur le plateau de Quelle Époque, Artus a expliqué qu'il avait arrêté de boire de l'alcool. Petite remarque de Léa Salamé qui lui a dit qu'il était devenu chiant.
Vous êtes devenu chiant.
Voilà.
Ouais, bon, c'est sympa.
Bon, cette petite blague n'a pas fait rire tout le monde. Hein. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont un peu déchaînés contre Léa Salamé. Ils l'ont accusé d'encourager la consommation d'alcool et de stigmatiser ceux qui ont arrêté de boire. Bon, ce matin sur Europe 1, Pascal Pro et notre chroniqueur Philippe Val ont pris la défense de Léa Salamé.
Ce qu'a dit Léa, qui est plutôt rigolo, parce que c'est transgressif, elle transgresse le tabou des campagnes de santé, contre le tabagisme et l'alcoolisme. Bon, mais c'est rigolo de le faire. Si on ne peut pas en rire comme l'a fait Léa, alors on est foutu, il faut tout arrêter.
Et elle va être obligée peut-être de s'excuser samedi prochain. Non. Vous savez, il y a un côté procès de Moscou. C'est ça les procès. C'est-à-dire qu'on venait s'excuser de la blague qu'on avait faite.
Non, mais il ne faut pas s'excuser.
Bon, en tout cas, on a lancé un sondage sur le réseau social X d'Europe 1 et le résultat est sans appel. 2/3 des internautes se disent choqués par cette petite blague de Léa Salamé.
Merci Solène Delinger.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Et comme tous les soirs, une tête d'affiche d'Europe 1 vous présente ses activités, son émission, ce qu'il y aura au programme le lendemain. Bonsoir Stéphane Bern.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Dans Historiquement Vôtre, demain, qu'est-ce qu'on a au programme ?
Bah écoutez, c'est un anniversaire un peu terrible, c'est celui du 1er mai de la disparition d'Ayrton Senna au Grand Prix d'Imola. Il y a 30 ans de cela, mais oui, déjà 1994, ça a été un choc d'abord parce que c'était une légende vivante, 3 fois champion du monde, 65 pole positions, un homme qui laissait personne indifférent, il était comme un dieu des pistes, vous savez, il avait une habitude, il allait à pied arpenter en quelque sorte les circuits automobiles avant de pouvoir les disputer. On pensait que rien ne pourrait lui résister, et puis ça a été le drame à Imola. Faut dire que Ratzenberger était mort la veille, il y a eu que des accidents ce jour-là. Enfin, il n'aimait pas sa voiture Williams. C'était un concours comme ça de circonstances terribles. Et on a dans l'émission Historiquement Vôtre, je vais faire le récit, mais il y a Lionel Froissart qui a bien connu Ayrton Senna et qui va revenir sur cette icône immolée en quelque sorte, et qui nous raconte sa rivalité avec Alain Prost, qui va nous raconter tous les détails de cet homme, de sa psychologie, sa personnalité, mais aussi le récit évidemment historique de cet événement il y a 30 ans.
Voilà donc Ayrton Senna au menu de Historiquement Vôtre demain en ce 1er mai. Tiens Stéphane, puisque je vous tiens, vous êtes sans doute le meilleur spécialiste de la famille britannique, la famille Windsor. Aujourd'hui, le, le roi Charles est apparu, il a repris ses activités. Comment est-ce que vous traduisez cette reprise pour le roi d'Angleterre ?
Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine inquiétude depuis le diagnostic qui avait été annoncé du cancer du roi Charles III. Et c'est vrai qu'il évitait les interactions sociales. Il rencontrait évidemment le Premier ministre et quelques ambassadeurs ou des hautes personnalités qui venaient le voir à Buckingham Palace. Mais il n'y avait plus de cérémonie, comment dire, de bain de foule, de rencontres publiques, évidemment pour protéger la santé du roi qui était en traitement pour son cancer. Là, les médecins ont rendu un avis très positif, et donc cet avis positif fait que le roi, évidemment, a pu réserver sa première visite à un centre, justement, de traitement du cancer, et il a accepté d'ailleurs d'être le parrain de la Fondation pour la recherche sur le cancer. Et il est apparu rayonnant, souriant, très enjoué, en pleine forme. Voilà une image qui rassure les Britanniques, alors que dans le même temps, un peu comme en France, il y a des images terribles qui parviennent d'attentats à l'arme blanche.
Bien sûr.
Je crois que les Britanniques aujourd'hui ont été rassurés depuis hier, depuis la sortie du roi dans l'hôpital où il s'est rendu auprès des malades du cancer.
C'est un demi-sourire pour les Britanniques, puisque autant le roi Charles ressort, autant il y a des rumeurs de plus en plus amplifiées sur la maladie de Kate.
Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a une vraie incertitude sur le cancer dont souffre la princesse de Galles. Et c'est l'une des figures, évidemment, les plus emblématiques, les plus populaires. Bon, le signe encourageant, c'est que le prince William a repris ses activités et qu'il y a deux jours, eh bien, il y avait le 13e anniversaire de mariage qui a été célébré par une photo rendue publique. Donc, les Britanniques ont bon espoir, même s'ils s'inquiètent, évidemment, parce qu'ils n'ont pas vu en public la princesse de Galles depuis le mois de décembre.
Merci beaucoup Stéphane Bern pour cet éclairage sur la famille royale britannique.
Merci beaucoup.
Et à demain pour un nouveau numéro d'Europe 1 Soir dès 19h. La météo, Marlène Duret, il a fait 30 degrés à Ajaccio cet après-midi.
Incroyable, hein ? Ça a duré quoi ? Une demi-heure en début d'après-midi, l'humidité a baissé, le vent a changé de secteur, c'est symptomatique de l'effet de feu. Vous savez, quand la masse d'air s'achève, ça sèche et qu'elle se réchauffe.
Et les orages demain.
Oui, ça c'est important. De gros orages qui vont